Calade.
Calade.
Ma radio. Différente, curieuse et indépendante.
Salut Jean-François.
Salut Patrick.
De quoi tu nous parles pour la chronique Nuance du Monde de cette semaine ?
Eh ben, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'Haïti qui chasse les Français. Parce que, il se trouve que la semaine dernière, j'étais en train de lire un très bon bouquin. C'est un énorme travail collectif consacré à l'esclavage, qui est dirigé par l'historien Paulin Ismar, et qui s'intitule « Les mondes de l'esclavage ». Et bien, ça m'a rappelé quand même une de ces aberrations dont notre histoire est faite. C'est qu'en 1825, la France du roi Charles X impose à Haïti, son ancienne colonie, le versement d'une indemnité mirobolante de 150 millions de francs or.
Alors, Haïti, donc, qui vient d'être libéré ou qui s'est libéré par la force de la domination des Français.
Ouais, c'est ça. Hein. Haïti, c'était une ancienne colonie française qui était connue
sous le nom de
Saint-Domingue,
donc,
qui est devenue indépendante de fait le 1er janvier 1804.
Moyennant une indemnité de 150 millions de francs or.
Ouais, c'est pas rien quand même.
Explique-nous ça.
Alors, donc, c'est une possession française Saint-Domingue depuis 1697, qui était l'une des plus riches colonies françaises au XVIIIe siècle, grâce à une économie basée sur la culture intensive de la canne à sucre, du café et de l'indigo. Cette prospérité, elle reposait sur l'exploitation quand même brutale de 500 000 esclaves d'origine africaine.
C'est surtout ça, c'est surtout beaucoup d'esclaves qui travaillaient.
Et oui, et puis
comment ça s'organisait alors la société coloniale de Saint-Domingue ?
Ben, cette société a été divisée en quatre grandes catégories.
Alors on dit Saint-Domingue, on dit Haïti, Saint-Domingue parce que c'est la même île en fait sur un plan physique.
C'est un plan physique, c'est la même. Haïti, c'était le nom amérindien en fait de l'île et les Français l'ont nommé Saint-Domingue.
D'accord. Donc quatre catégories dans la société coloniale.
On a les grands colons blancs qui sont les grands propriétaires terriens. Les petits blancs qui sont eux plutôt des artisans, des commerçants. Ensuite, on a les affranchis qui sont les libres de couleur et les esclaves noirs qui sont la grande majorité de la population puisque c'est à peu près 89% de la population.
Ouais. 89% d'esclaves quand même.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et cette hiérarchie est vraiment profondément raciste et inégalitaire. Puisque les esclaves, ils enduraient des conditions de vie extrêmement dures avec des travaux forcés, des châtiments corporels. Et une espérance de vie qui était très courte, entre 20 et 25 ans à peu près.
Ouais, ce qui fait pas beaucoup, même à l'époque.
Et comme ils étaient très nombreux, quand même, ils en profitaient pour se révolter de temps en temps. Ces révoltes étaient assez fréquentes, mais très violemment réprimées. Et à partir de 1789, il y a un changement avec l'esprit révolutionnaire qui animait la France et des idées de liberté, d'égalité, de droit universel qui a influencé les habitants de Saint-Domingue, notamment les affranchis, qui réclamaient des droits civiques. Car bien qu'ils soient libres, les affranchis étaient aussi victimes de discrimination raciale et n'avaient pas les mêmes droits que les colons blancs.
Ouais.
Leur frustration s'ajoutait en plus aux aspirations des esclaves à la liberté.
Oui, bien sûr. Donc on a ici les causes de la révolution haïtienne qui débute en 1791, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Hein. Elle va débuter en janvier 1791, exactement. Mais elle va surtout s'intensifier dans la nuit du 22 au 23 août 1791, où les riches domaines vont être incendiés et les maîtres et les contremaîtres blancs vont être massacrés avec leurs familles.
D'accord.
Donc cette révolte, c'est finalement le point de départ d'une guerre de libération dans laquelle un personnage encore majeur va jouer un rôle essentiel. C'est un personnage assez connu de nous, il s'appelle Toussaint Louverture quand même.
Aujourd'hui, on connaît ce nom, Toussaint Louverture.
C'était un ancien esclave qui est devenu militaire. Il va rapidement prendre la tête du mouvement de rébellion. Alors c'est un stratège assez habile, assez brillant. Il va réussir à négocier dans un premier temps avec les Espagnols et les Britanniques qui vont chercher à affaiblir la France.
Bien sûr, classique.
Hein. Et voilà, et en 1794, la France révolutionnaire, sous la pression de ces événements, là, va décréter l'abolition de l'esclavage dans toutes ses colonies pour tenter de rallier les insurgés à sa cause.
D'accord.
Et ainsi, Louverture va accepter, lui, de s'allier à la France contre les puissances étrangères.
Donc c'est vraiment cette abolition de l'esclavage qui décide Louverture de revenir du côté de la France.
Exactement. Et entre 1794 et 1801, Toussaint Louverture va réussir à stabiliser la colonie tout en même temps consolidant son pouvoir. Ainsi, il établit en 1801 une constitution qui affirme l'autonomie de l'île de Saint-Domingue, tout en restant quand même très fortement attaché à la France. Cependant, un autre grand personnage, Napoléon de Bonaparte, qui vient juste de prendre le pouvoir en France en 1799, va renverser un peu tout ça parce qu'il n'accepte pas cette indépendance de fait.
Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va changer le destin de Saint-Domingue, semble-t-il.
Il va essayer en tout cas, parce que dès 1802, déjà, il rétablit l'esclavage. Et il envoie une expédition militaire pour reprendre le contrôle de l'île. Alors Toussaint Louverture, il est capturé par traîtrise, en fait. On lui arrange un petit rendez-vous pour faire un dialogue et puis on le capture, tout simplement.
On le
puis il va être déporté et emprisonné en France où il va mourir en 1803.
D'accord.
Dans des conditions assez difficiles. Malgré tout, la lutte pour l'indépendance se poursuit sous la direction d'un autre personnage cette fois-ci, Jean-Jacques de Salines, qui est un des anciens lieutenants de l'ouverture. Alors avec ses généraux, de Salines, il va mener une guerre constante contre les troupes françaises et le 18 novembre 1803, lors de la bataille de Vertrières, les troupes haïtiennes vont parvenir à infliger une très lourde défaite aux Français. Et cette victoire, finalement, va sceller la fin de la présence coloniale française sur l'île et dès le 1er janvier 1804, de Salines proclame officiellement l'indépendance de Saint-Domingue qui va être baptisée donc Haïti.
À ce moment-là, d'accord.
Et qui, donc, son nom amérindien signifie « terre montagneuse ».
D'accord.
Et Haïti devient la première puissance, enfin, le premier pays pardon, indépendant des Caraïbes et le premier État fondé par des esclaves affranchis. Mais en raison de la crainte de voir l'exemple haïtien encourager des révoltes d'esclaves dans d'autres colonies, Haïti a été totalement ostracisé par les grandes puissances, en particulier les États-Unis et les nations européennes.
Mais oui, qu'il y avait des esclaves en veux-tu en voilà, qui n'allaient pas s'amuser à trop légitimer l'indépendance haïtienne, c'est
exactement.
Sûr. Donc on arrive à l'année 1825 et à donc cette fameuse dette qui est imposée par la France à Haïti.
Ouais, alors c'est le 17 avril 1825 que tout se passe. Il y a une flotte de navires français qui arrive au large de Port-au-Prince. Et l'escadre qui menace l'ancienne colonie d'un blocus et d'une intervention militaire va réussir à négocier avec l'île, avec Haïti, pour aboutir à un accord.
Imposer un accord, c'est ça.
Haïti va devoir payer une somme à la France pour qu'elle tienne ses navires éloignés et ne pénètre pas dans l'île afin de reprendre possession et d'y rétablir également l'esclavage. Alors le montant fixé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la France de Charles X, il est vraiment astronomique.
Ouais,
150 millions de francs or quand même, 10 fois le budget annuel du petit État.
Ouais, c'est ça, surtout. Voilà. C'est un montant complètement délirant en fait.
Délirant, et puis en plus, cette jeune République, elle n'a pas les moyens de payer une telle somme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens ? Eh bien, on demande
emprunte,
de l'argent aux banques, on emprunte, avec des taux d'intérêt très élevés, et on emprunte à qui ? Eh bien, des banques françaises.
Oui, tiens,
et oui.
L'affaire va rester en famille.
Et voilà, c'est ça. Avant, finalement, en 1922, quand même, de se tourner vers une banque américaine, la National City Bank. Mais bon, bref, le remboursement de la dette va s'échelonner jusqu'en 1947, quand même.
Ce qui fait quand même 120 ans. Hein.
C'est
120 ans où ils vont payer à la France ces sommes.
Ouais. Et en définitive, c'est plus de la moitié des sommes qui sont remboursées par l'État haïtien qui correspondent au paiement des intérêts des dettes
contractées.
Et oui,
bien sûr, selon le principe des intérêts composés,
c'est, ça.
C'est toujours ça.
Et c'est impressionnant. Pire encore finalement, parce que cette dette va changer la logique d'Haïti, puisque le code rural haïtien qui est promulgué en 1826 par le président Boyer, le président haïtien, il est fait pourquoi ? Pour essayer de rendre possible le versement des premières traites. Et ce code rural va restaurer certains aspects de l'ordre esclavagiste colonial en mettant en place notamment le principe de l'attachement de la population agricole à la population.
Donc ouais, quasiment, ça c'est assez douloureux quand même.
C'est comme du servage quoi finalement, c'est assez douloureux.
Ouais.
Et donc on va conclure pour en considérant que ainsi finalement Haïti c'est à Haïti qui a été inventé un paradigme promis finalement à un bel avenir, un riche avenir, de manière assez ironique. C'est celui de la gouvernance néocoloniale fondée sur le recours de la dette publique.
Comme quoi la logique coloniale peut perdurer même après l'indépendance d'un pays.
Exactement.
Merci Jean-François.
Merci. Au revoir.
Prenons le temps d'en parler. Prenons le temps d'écouter.
Calade, ma radio.